Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Voilà, on est heureux de se retrouver ce matin pour partager le conseil de Dieu. La thématique du message de ce matin, c'est la transcendance du mariage. Bizarrement, quand on parle mariage, quand j'ai fait l'annonce sur Facebook, il y en a qui sont venus en messagerie privée. Mais qu'est-ce que tu vas dire exactement sur le mariage? Est-ce que ça va être enregistré? Est-ce que je pourrais le réécouter, etc. Ça concerne a priori beaucoup de gens, le mariage. Est-ce que c'est en vue de se marier ou est-ce que c'est quand on est marié? Ben, c'est les deux. Ça concerne évidemment les deux. La semaine dernière, nous abordions ensemble le sujet du sabbat. Je ne sais pas si vous avez réussi à mettre en place le sabbat dans vos maisons, dans vos familles. C'est tellement quelque chose de primordial, de nécessaire dans nos vies, de pouvoir au moins un jour la semaine nous poser profiter de ceux et celles que Dieu a placés autour de nous, nos parents, nos enfants, nos bien-aimés, et de pouvoir leur accorder du temps, de ne pas être collé rivé sur les écrans, de ne pas être en train de dépenser notre temps à des choses vaines et inutiles. Quand on aime quelqu'un, on doit lui accorder du temps. C'est évidemment, si vous dites à votre femme, j'ai pas le temps, tiens, voilà 100 euros. Je pense que ça va pas lui plaire. J'ai pas le temps d'être avec toi, donc je vais te donner de l'argent à la place. Est-ce que ça te convient? Évidemment, elle va pas être très contente, même si avec les 100 euros, elle se dit, je sais ce que je vais en faire, donne-les quand même. Donc, donnez-lui du temps, donnez-lui 100 euros pour aller s'acheter une belle robe. Mais surtout, accordez du temps à ceux qui sont autour de vous. Et surtout, au Seigneur, parce que le sabbat, c'est avant tout aussi se fixer, se concentrer sur le Seigneur et lui accorder du temps. La semaine dernière, donc, on abordait au sujet du sabbat. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont été touchés par ce message, au point de vouloir concrètement changer quelques habitudes de vie, de vouloir ralentir et développer une meilleure relation avec Dieu, s'inscrivant dans des temps de qualité. Certains sont même venus me voir en me disant « Est-ce que tu peux m'aider à me mettre en place un agenda ?» C'est la meilleure façon de pouvoir ne pas se laisser gagner par toutes sortes de choses chronophages dans nos vies et de se mettre des habitudes. En tout cas, pour certains, ça peut les aider, évidemment. Donc, s'inscrire dans des temps de qualité dans la présence du Seigneur et avec nos familles. Et comme on l'a vu dimanche dernier, l'observance du sabbat n'a rien à voir avec un rituel religieux, strict et légaliste. Ce ne sont pas juste des choses à faire et des choses à pas faire. C'est plutôt une ordonnance faite par un Dieu d'amour qui veut cultiver avec ses enfants une relation personnelle, riche et belle. Mais pour que ce soit possible, nous devons être prêts à accepter les limites qui rendent possible cette intimité avec le Dieu vivant. Nous devons respecter ce sabbat et non nous contenter de quelques prières lancées vers le ciel, comme des SMS, vous savez, vous avez tous la prière SMS. C'est d'abord, on peut faire une liste de tout ce qu'on prie, puis on envoie un texto au Seigneur, et il a tous les jours pratiquement le même texto. On lui envoie ce petit SMS, quelques lectures par jour parcourues à la va-vite pour se donner bonne conscience. Qui se contenterait à long terme d'une relation amoureuse faite de SMS? Écoute chérie, j'ai pas le temps de parler avec toi, donc pour moi c'est plus simple de t'envoyer des textos. Je ne sais pas si une relation amoureuse peut à long terme perdurer si les seuls échanges que l'on a avec le bien-aimé ou la bien-aimée se fait à travers de textos. Qui pourrait se satisfaire d'une union sans moment de qualité, sans dialogue, ni partage privilégié? Et toute relation épanouissante, enrichissante et bienheureuse ne peut se faire de loin et en quelques minutes. Elle nécessite de prendre du temps de qualité, de la proximité, des échanges, du dialogue, du partage. Et cela est vrai dans une relation amoureuse, dans les relations amicales, dans les relations familiales et bien évidemment dans notre relation avec Dieu. Pourquoi? C'est simple, parce que l'être humain fonctionne ainsi. Il est et il a été créé relationnel et a fondamentalement besoin d'amour, d'aimer et d'être aimé. Parce qu'il a été créé par un Dieu qui est amour. Dieu est amour, nous dit la première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 8. C'est le plus court verset de la Bible. Dieu est amour. On aurait de quoi parler pendant des années et des années, rien que sur le fait que Dieu est amour. Waouh. Parce qu'il a été créé à l'image de ce Dieu d'amour. Genèse chapitre 1er, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. On ne prend pas conscience quand on lit la Bible dans sa version française classique, mais le Dieu dont le livre de la Genèse parle ici, c'est Elohim. Le Dieu pluriel, le Dieu trine, qui de toute éternité vit dans une relation d'amour infinie. L'amour ne peut pas exister sans partage. Dieu est essentiellement et éternellement l'amour interpersonnel. À la suite du message sur le sabbat, expliquant que nous devons aménager dans notre vie du temps de qualité avec Dieu pour pleinement profiter de la vie qu'il nous donne, mais aussi de sa paix, de son amour, de sa joie. Et que toutes ces bénédictions doivent être partagées avec nos familles, nos frères et sœurs en la foi, dans des temps privilégiés, hors du temps en quelque sorte. J'aimerais poursuivre avec vous aujourd'hui sur un thème qui nous ramène aussi à la Genèse, dans le livre de la Genèse, à la racine même de ce que Dieu attendait de ses créatures. Franchement, relisez le livre de la Genèse. C'est un livre qui est tellement beau. Déjà, dès le livre de la Genèse, tout est posé. L'évangile est déjà annoncé. Le sacrifice est déjà fait. Le plan de Dieu est déjà déroulé. C'est la racine même de ce que Dieu attendait de ses créatures qui nous y est révélé. Sur un thème qui, tout comme celui du sabbat, est essentiel à notre bénédiction, mais qui malheureusement a été dénaturé et bafoué dès le commencement. Ce thème souvent abordé dans des occasions très spéciales, c'est le mariage. On parle souvent du mariage le jour où on fait un mariage. Mais on parle très peu du mariage en dehors de la cérémonie du mariage. Si nous voulons bien comprendre et respecter ce que Dieu avait prévu dès le commencement, le mariage est à la fois profondément marqué par des intentions divines essentielles et les bénédictions qui en découlent. Ce thème ne concerne pas seulement les couples déjà mariés ou ceux en devenir. Mais chaque enfant de Dieu devrait connaître la vision de Dieu sur le mariage pour voir les choses comme lui les voit. Et nous sommes concernés par le mariage. Et si nous sommes concernés par le mariage, nous devrions y œuvrer avec Dieu comme il le veut. Et pas comme nous. On le pense, en poursuivant évidemment ses buts et en devenant des couples et des familles bénies et bénissantes. On va parler du fait d'avoir une bonne vision du mariage, c'est-à-dire une vision selon Dieu. Si le sabbat est un moment spécial, un peu hors du temps, mis à part pour notre bonheur par Dieu, avec Dieu, pour cultiver notre amour, notre paix et notre joie dans sa présence, le mariage est une union spéciale, à part de toutes les autres, et faite pour cultiver notre amour, notre paix et notre joie dans la présence de l'être aimé et dans celle de Dieu. Voilà pourquoi, aux yeux de Dieu, toute union hors du mariage est une union illicite. Elle cherche à obtenir les résultats indépendamment de Dieu. Plus que cela, le mariage selon Dieu doit refléter l'amour divin. Est-ce que c'est votre vision du mariage? L'objectif du mariage, de mon mariage, de mon couple, si vous êtes marié, est-ce de refléter l'amour divin. Est-ce que le matin, quand vous vous levez avec votre mari ou votre épouse, vous dites « Aujourd'hui, ce que nous voulons refléter au travers de notre couple, de notre union, de notre mariage, c'est l'amour divin. » Que lorsqu'on nous voit, mon mari et moi, ma femme et moi, on puisse dire « On voit au milieu de ce couple ce que doit être l'amour de Dieu en les regardant. » En contemplant leur relation, la relation qu'ils ont l'un à l'autre. Comme on l'avait fait la semaine dernière, j'aimerais vous poser quelques questions importantes. Afin que vous preniez conscience de votre vision du mariage, est-elle seulement empreinte de quelques notions bibliques ou est-elle pleinement divine, l'image que vous avez du mariage ? Voici quelques propositions. Essayez d'y répondre honnêtement au fur et à mesure que les questions vont tomber, vont apparaître sur le vidéo, sans répondre à haute voix. D'accord ? C'est à l'intérieur. Bon, après, moi, je vois vos visages d'ici, donc je vois un peu les réactions. Et j'écris en même temps. Vous constaterez que les propositions précédées du chiffre 1 sont des affirmations reflétant trop souvent notre vie et notre nature, souvent mi-charnelle, mi-spirituelle, qui nous entraîne à vivre souvent des tensions et des échecs. Et les propositions qui seront précédées du chiffre 2 sont celles que nous devrions vivre si nous conservions précieusement la vision de Dieu sur le mariage et que nous la mettions en pratique. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts ? La première. Je sais que mon mariage doit être un fondement stable de ma vie, mais je ne travaille pas à l'amour et l'unité selon Dieu dans mon couple. On s'aime, mais l'amour qu'on a l'un pour l'autre, on n'y travaille pas pour que ce soit vraiment l'amour de Dieu qui soit entre nous. C'est l'amour d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme. La deuxième proposition, c'est « je cultive intentionnellement ». Je cultive, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être que votre mariage, c'est un terrain non cultivé. Il pousse ce qu'il peut. Mais là, je cultive intentionnellement un mariage qui sert de témoignage de l'amour de Dieu pour l'Église et le monde qui m'entoure. Mon mariage est un modèle de l'amour et de l'unité du Dieu trinitaire. Un ou deux ? On continue ? Je suis engagé, il y a un petit E pour les femmes, et fidèle à mon époux et mon épouse. Mais mon travail séculier a la priorité sur ma vie de couple. Là, je vois des yeux qui font. Deuxième proposition, après ma relation avec Jésus, ma priorité est de réussir ma vie de couple. Ma priorité, après ma relation avec Jésus, c'est de réussir ma vie de couple. Et une vie de couple, on ne peut pas la réussir en lâchant tout aller, en espérant que ça va bien aller sans y travailler. C'est comme si tu crois que tu vas aller à ton travail, que tu vas rien faire et que tu vas avoir ton salaire. Il y en a que ça arrive, ça ? Notre mariage est privé et ne concerne que notre couple. Je n'essaie pas de communiquer quoi que ce soit à qui que ce soit sur ce sujet. C'est notre couple. C'est privé. Ça nous appartient à nous. Ou alors, notre mariage peut servir de modèle et nos expériences au sein de notre couple peuvent aider d'autres couples. Et je rajoute, évidemment, en demeurant dans la bienséance, il y a des choses qui peuvent être partagées et certainement d'autres non. Ça va, on continue, vous arrivez à répondre ? Premièrement, ma communion avec Jésus se traduit rarement par une plus grande proximité avec mon époux ou mon épouse. Quel est le lien entre ta communion avec le Seigneur et avec ton époux ou ton épouse ? Est-ce que tu fais un lien ? Ou deuxièmement, ma communion avec Jésus se traduit souvent par une plus grande proximité avec mon époux ou mon épouse? Premièrement, mon époux, mon épouse et moi passons rarement du temps ensemble pour bâtir notre relation. Rarement. On cohabite. On est ensemble sans l'être. On cohabite. Deuxièmement, mon époux, mon épouse et moi passons régulièrement du temps ensemble pour bâtir notre relation. On y réfléchit, on y travaille, on questionne l'autre pour savoir là où il en est, dans ses attentes, dans ses frustrations. Notre mariage est un facteur mineur dans les grandes décisions de notre vie. C'est-à-dire on prend des décisions, mais le mariage en tant qu'entité, eh bien, n'est pas un facteur important pour prendre des décisions. Ou alors, notre mariage est un facteur très important dans les grandes décisions de notre vie. Il y en a encore quelques-unes. Mon époux ou mon épouse m'a dit que j'étais trop investi dans mon travail ou activité en dehors de la maison et que je n'étais pas assez présent au sein de notre famille. Ou alors, mon époux et mon épouse et moi convenons d'un équilibre sain et d'un bon fonctionnement entre le travail, nos différentes activités et la maison, garantissant ainsi que notre mariage et notre famille reçoivent le meilleur de nous. Bien souvent, le couple et la famille reçoivent ce qui reste une fois qu'on s'est bien dépensé dans tous les autres domaines de notre vie. Et on est tellement épuisé qu'on n'a même plus assez de patience et de force pour s'occuper de cette relation. On se retrouve ensemble et on s'endort. On est totalement épuisé. Ou alors on dit, arrête de parler, ça me fatigue, j'en peux plus. Waouh! Autre proposition. Je ne veux pas que mon conjoint s'occupe de ce qui concerne mon travail ou mes différentes activités, comme mon service à l'église. Ça ne le regarde pas, ça ne la regarde pas. C'est ma vie. Ou alors, je veux que mon conjoint m'aide et me donne son avis sur mon travail et mon service à l'église, afin que je puisse l'améliorer. Enfin, je n'ai jamais pensé que mon expérience avec ma famille d'origine, à propos de l'affection que j'y ai reçue, de la proximité entre les membres de cette famille et leur connexion, puisse avoir des influences sur mon mariage. Est-ce que ta vie, avant d'avoir été mariée au sein de ta propre famille, des relations que tu y as partagées, ou peut-être pas partagées justement, est-ce que tu as réfléchi qu'un jour, tout ce que tu as vécu avant d'être marié peut avoir des répercussions dans ton couple? Est-ce que tu y as pensé? J'ai profondément réfléchi au sujet de mon expérience avec ma propre famille, avec ma famille d'origine, sur le modèle du couple en voyant mon père et ma mère vivre ensemble. Et tristement, certains ne font que de reproduire ce qu'ils ont vu devant eux. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à reproduire ce que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont pu vivre au sein de leur relation. Le modèle du couple nous est donné dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un modèle de couple selon des cultures et des traditions ou selon un héritage familial. Le modèle du couple, il nous est transmis dans les Écritures. Si nous voulons qu'il fonctionne, il faut respecter celui qui a créé le couple et le mariage, c'est-à-dire Dieu. Il en a donné tous les fonctionnements, tous les paramètres. Seulement, on est tellement préoccupé par tellement de choses. Puis un jour, on se réveille, on va travailler, on rentre le soir et elle n'est plus là. Où il n'est plus là. où le soir, il commence à plus rentrer à la maison. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai négligé dans ma vie? Toutes ces propositions nous ont tous permis de voir où nous en étions dans notre vision du mariage et de toutes les choses susceptibles de devoir changer. Est-ce que vous avez plus de 1 ou de 2? Peut-être venez-vous de prendre conscience de tous les dysfonctionnements qui vous ont amené à vivre de nombreuses tensions et échecs dans votre vie sentimentale. Peut-être pensez-vous que les critères demandés sont hors de votre portée. Le niveau, il est trop haut, là. Et que ça réclame trop d'exigences. Waouh ! Tout ce qu'il faut faire. Moi, je me suis marié, j'ai dit dans les bons, les mauvais jours, mais là, je pensais pas qu'il fallait bosser autant, quoi. Je pensais pas qu'il fallait que je m'y attache autant. Je pensais que les choses seraient plus faciles. Eh oui. Peut-être vous vous dites, ça réclame tellement de réformes. J'entends déjà, c'est bizarre, je l'entends dans mon oreille, ça fait déjà 40 ans qu'on est ensemble. Il arrive trop tard, ce pasteur-là. Ben non. C'est pas parce que ça a dysfonctionné pendant 40 ans que les dernières années qui te restent, ça vaut pas la peine de fonctionner correctement, quoi. Parce qu'avec Jésus, tu as la possibilité de remettre les choses là où elles doivent être et de redonner de la qualité à ce qui est tellement important dans ta vie. Rassurez-vous, si Dieu désire nous ouvrir les yeux sur nos réalités, c'est toujours mieux que d'en faire le déni, vous savez, parce qu'un jour elles vous rattraperont, vos réalités, si vous les déniez. Le pire, c'est de se retrouver, et ça on le tous un jour ou l'autre, devant la sépulture de celui qu'on a aimé. Et de se dire, mince, j'ai raté tellement de choses. J'ai perdu mon papa au mois d'avril et je vois combien ma maman est dans un état de manque profond. Elle me dit, si tu savais mon fils, comme c'est dur. Seulement, quand mon papa était là, elle me disait, si tu savais mon fils, comme c'est dur. Et quand j'avais mon papa au téléphone, il me disait la même chose. Des années auparavant, je leur avais dit, il faut que vous réformiez vraiment vos vies et votre relation. Et vous savez quelle était leur réponse ? On est trop vieux maintenant. On est trop vieux maintenant. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour changer ce qui doit être changé. Surtout quand on est chrétien. Quand on est des chrétiennes. De se dire, c'est pas parce que ça n'a pas été pendant des années, parce qu'on a négligé certaines choses, que nous devons continuer à agir comme cela. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, le Christ va dire, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu a donné ses commandements, ses ordonnances ou ses instructions pour nous donner une ligne de conduite, pour illuminer les yeux de notre cœur et nous donner toute la connaissance et la sagesse pour marcher dans ses voies, pour être bénis, heureux et profiter de tous ses bienfaits. Et non seulement il nous a indiqué la voie, mais il nous a donné aussi le moyen d'y marcher. Oui, sans Jésus, dans notre vie, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire de bon. Mais avec eux, cela devient possible, parce que Dieu est à la fois transcendant, alors deux mots qu'il va falloir que j'y explique, et immanent. Transcendance, c'est un terme qui est utilisé pour décrire le fait que Dieu est plus grand que sa création et qu'il est en même temps indépendant de sa création. Il n'a pas besoin de la création pour vivre Dieu. Il vit de toute éternité. Donc il est au-delà de tout et il a besoin de rien à part lui. Au sein de la Trinité. Et il est immanent, c'est-à-dire qui réside ou demeure dans. C'est un mot utilisé pour parler de l'implication de Dieu dans sa création. Il est celui qui soutient toute chose. C'est pas seulement un Dieu qui est dans le fin fond de l'espace ou dans un lieu, on ne sait pas trop où, qui a créé et qui maintenant laisse les choses avancer toutes seules. Non, c'est un Dieu qui est impliqué au sein de sa création. Il est à la fois transcendant et il est à la fois immanent. Dieu nous partage donc son amour. Et beaucoup se trompent en pensant que Dieu nous a créés parce qu'il avait un trop-plein d'amour à partager. Dieu s'est dit, ouais, j'ai tellement d'amour à donner qu'il faut que je me crée des petits bons hommes, comme ça je vais pouvoir donner de l'amour. Dieu ne nous a pas créés par besoin. Un besoin qui lui appartenait à lui. Dieu se satisfait pleinement dans sa relation interpersonnelle au sein de la Trinité. C'est pour ça qu'une bonne théologie de croire dans le Dieu Trine, Père, Fils et Esprit Saint, c'est comprendre qu'au sein de la divinité, il y a un échange interpersonnel, un échange d'amour. Parce que si Dieu était un et qu'il n'y a pas Trinité au sein de la divinité, à partir de là, Dieu va créer par besoin le besoin d'aimer, puisqu'il était seul. Tout seul. Mais la Bible nous révèle le Dieu Trine, le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui est dans une relation interpersonnelle depuis l'éternité, depuis toute éternité. Dieu se satisfait pleinement dans sa relation interpersonnelle au sein de la Trinité. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin d'aimer des créatures, mais il nous a créés pour que nous vivions dans cette plénitude d'amour avec lui. Et avec nos semblables. George Marsden a écrit « Pourquoi un être éternel, infiniment bon et parfait, créerait-il ? » La raison suprême pour laquelle Dieu crée n'est pas de pallier une quelconque lacune en lui, mais d'étendre cette communication interne parfaite de la bonté et de l'amour du Dieu Trine. La joie, le bonheur, le plaisir de Dieu dans les perfections divines s'exprime extérieurement en transmettant ce bonheur et ce plaisir à nous, des êtres créés. L'univers est une explosion de la gloire de Dieu. Dieu est rayonnant d'une bonté, d'une beauté et d'un amour parfait qui incite les créatures, nous, à prendre de plus en plus part à la joie et au plaisir du Seigneur. Le but ultime de la création est alors une union d'amour entre Dieu et des créatures aimantes. Voilà le but de la création, d'être uni à Dieu dans son amour. Dieu ne nous a pas créés seulement pour bénéficier de la joie céleste et incommensurable que procure son amour, mais pour le partager. Dieu a voulu nous rendre participants de sa vie, de son amour éternel et infini. Et ce n'est pas par hasard si un des plus grands commandements sont écrits dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et la suite qui nous est donnée, ton cœur, ton âme et ta pensée sont là pour décrire l'entièreté de l'être humain. Il n'y a pas un domaine en toi qui ne doit pas poursuivre cette relation d'amour. Tout entier dans une relation d'amour. On parlera justement de vivre une vie décloisonnée cet après-midi pour ceux qui sont à l'atelier 180. C'est tellement important de comprendre le fait que nous devons avoir des vies décloisonnées. On est trop cloisonnés. L'homme et la femme d'aujourd'hui, dans ce monde moderne, ont été élevés avec des vies cloisonnées, parcellées, avec des dichotomies, des séparations à l'intérieur d'eux, qui entravent le bon fonctionnement spirituel de leur vie. C'est le premier et le plus grand des commandements, dit Jésus, et voici le second. Une fois que je suis dans une relation d'amour avec Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aimer mon prochain. Je dois aimer mon prochain. Il n'y a que celui qui reçoit qui peut redonner. Si tu ne reçois pas, tu ne peux pas redonner. Ou qu'est-ce que tu vas redonner réellement? Quand nous centrons notre vie sur Dieu, en le servant, sans rechercher notre propre intérêt, uniquement par égard pour qui il est, pour sa beauté et sa gloire, nous partageons la joie et l'amour dans lesquels il vit. Nous n'avons pas été conçus uniquement pour croire en Dieu d'une manière générale, ni pour avoir une vague spiritualité ou inspiration. Nous avons été faits pour axer notre vie sur lui, pour que le but et la passion de notre vie soient de le connaître, de le servir, de l'aimer et de lui ressembler. Et poursuivre ce but et cette passion doit nous remplir d'un bonheur croissant, qui se poursuivra éternellement, augmentant dans des proportions inimaginables. Et poursuivre ce but et cette passion doit imprégner toute notre vie, notre couple, notre famille et notre Église. Parce qu'on peut toujours essayer de chercher plein de visions pour les Églises. Nous, on veut l'Église de ci, nous, on veut l'Église comme ça, l'Église qui fait ci ou l'Église qui fait ça, la spécialiste de la louange, la spécialiste de la prière, et puis tout un tas de critères qu'on se met. Mais on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut au travers de l'Église ? Il y a ce que nous, on pense que l'Église doit faire, mais il y a ce que Dieu attend de l'Église. Elle lui appartient, c'est lui qui en est le grand berger. S'il a fondé l'Église, c'est bien parce qu'il a une attente. S'il nous a réunis en un corps qu'il appelle son épouse, est-ce que son épouse peut faire ce qu'elle veut toute la journée et ne pas se soucier de celui à qui elle est liée, avec lequel elle n'aspire qu'à ne faire un avec lui dans une relation d'amour? Tous ensemble, ne faire qu'un pour entrer en relation avec lui. Se marier, avoir des enfants, avoir une maison ou quelconque autre bien matériel n'est pas un but en soi, ni un moyen de connaître le bonheur. J'essaye de casser les clichés, tous les idéaux. Il suffit d'aller voir certains ou certaines qui sont mariés depuis des années et leur poser la question « Est-ce que pour toi le mariage est véritablement le moyen de vivre un bonheur en faisant l'acquisition de biens matériels ?» Bah non. Combien de fois j'ai dû m'occuper de couples et je leur disais « Mais en réalité, je vous connais, vous avez tout pour être heureux. Ils sont pas dans la rue, quoi. Il y a des salaires qui tombent. Certains ont des biens. Voiture, la santé, des enfants en bonne santé qui se développent harmonieusement. Ils ont tout pour être heureux. Pourquoi ça va pas? Et on voit très bien que c'est pas l'abondance des biens qui fait le bonheur d'un couple. La cage nourrit jamais l'oiseau. Et quand le mariage est devenu juste une cage, n'est-ce pas la pire des choses, sincèrement? Nous n'avons pas été appelés à vivre dans une cage, même si elle est dorée. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons vivre les choses telles que Dieu les a voulues. Nous sommes appelés à bâtir un couple, bâtir une famille où sa vie est une tâche qui doit refléter l'amour de Dieu, sa paix, sa joie. Toute notre vie doit refléter sa gloire et ne pas chercher la nôtre. Je ne me marie pas pour réussir ma vie. Parce qu'à deux, et deux salaires, j'en aurais bien plus que tout seul avec un seul salaire. Parce que comme je ne sais pas faire à manger, ni la lessive, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un. Et puis surtout, pasteur, je ne supporte pas la solitude. Achète-toi un chien. C'est bien un chien. Ben oui. J'ai rien contre les chiens. Ah, ça sort du cœur. Il peut mordre, hein, mais bon. Il dit rien. Sauf si t'as un pitbull, des fois il peut te chiquer, tu n'arrives même plus à rentrer chez toi. Tu vois, le chien il est chez lui et toi t'es plus chez toi. Alors même si depuis des générations on a ensemencé dans nos esprits, écoutez bien, depuis des générations, c'est la présent, un concept de mariage digne des plus grands contes de fées. Un jour mon prince viendra sur un cheval blanc. Où tout finit par... Allez, dites-moi, c'est quoi la phrase ? Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Bizarrement, les femmes aujourd'hui disent ils se marièrent et eurent un ou deux enfants. C'est bon, hein, pas plus, hein, c'est à l'époque où on vit. Mais dans tous les contes de fées, c'est ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Moi, mes petites filles, elles kiffent trop les histoires de princes et de princesses. Dès que tu veux leur acheter une panoplie, c'est pas une panoplie de femmes de ménage qu'elles veulent, c'est une panoplie de princesses, quoi. Et Disney, ils sont pas fous, quoi. Ils sont pas en train d'expliquer ce que va être ta vie. Ils sont en train d'expliquer ce que c'est que d'être une princesse. Et toute petite, tu regardes ça, tu vois le château, tu vois le prince. Waouh, le prince, quoi. Il a pas un défaut, le gars, quoi. Il laisse pas traîner ses chaussettes, il sent bon. Waouh, il est trop beau, ce prince. Oh, et la princesse, elle... a fait ça, tous les cheveux ils se replacent. Toi tu fais ça, t'as les cheveux ils sont comme ça. Waouh, c'est tellement un idéal qui est là devant nous. On en rêve, on le veut, je le veux. Oh Dieu, réveille-toi, t'es plus une petite fille. T'es plus devant un film de Walt Disney. T'es dans ta vie maintenant. Le problème, c'est que ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais étrangement, on ne connaît jamais la suite de l'histoire. Moi, j'aimerais bien les voir, ces princesses qui se sont mariées après 20 ou 30 ans de mariage. Et puis les interviewer. Alors, c'était comment ? Oh là là ! Oh, le prince ! Si vous saviez ! Et puis, tu irais voir le prince et tu lui dirais, alors, depuis que tu es marié, là, ça fait 30 ans. Ah, oh, la mégère que j'ai pris. On n'a que le début de l'histoire, on n'a pas la fin. Même si de célèbres comédies sentimentales... Alors là, les comédies sentimentales, Netflix, là, ils en donnent. Hein. Vous savez, c'est les trucs, tu pleures quand tu les regardes. Tellement c'est beau. Puis après, quand t'éteins la télé et que tu vois chez toi, tu te fais « Waouh !» C'est quand moi, je regarde des magazines où il y a des super voitures de sport et que je descends sur mon parking et je monte dans ma voiture. J'appuie, mais ça réagit pas pareil. La vie devient terne, non ? Quand on s'abreuve de choses. Vous savez, l'idéal vient du mot « idole ». Est-ce qu'un croyant peut avoir des idoles dans son cœur, des choses qu'il idéalise, des idoles présentes en lui ? T'as pas un idéal du couple ? T'as pas un idéal de ce qu'est la vie ensemble ? T'as pas une idole dans ton cœur quelque part que tu devrais renverser avec l'aide de Dieu ? Combien de comédies sentimentales ont poursuivi ce rêve d'un mariage romantique ? pas en deux mots, en un seul. Où tout n'est que sourire, baiser et tendre complicité. Vous les voyez les petits oiseaux qui volent là ? Les papillons ? Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce qui est dépeint dans les contes et les comédies n'a hélas rien à voir avec la réalité. Mais rien. J'en ai regardé certains, j'arrive plus aujourd'hui à les regarder parce que je me dis, mais waouh, ça n'a rien à voir avec ce que je vis. Alors je vais encore casser une idole. Le couple pastoral, hein, Sophie, n'est pas parfait. Ah! Parce que certains pourraient croire que nous, on baigne dans un bonheur. Évidemment, on a une onction, on baigne dans une onction. Là. Wow. Ça ne chauffe jamais entre nous. Tout se résout dans une intercession parfaite. On se met à genoux et là, Dieu parle et nous dit ce qu'on doit faire. On a de longues discussions. On bat des records. Je ne sais pas si vous avez déjà eu 14 heures de discussion avec votre épouse ou votre époux. Mais quand on se met à discuter, Sophie et moi, je suis un peu compulsif. Le temps que j'arrive pas au bout de ce que je pense arriver, je lâche rien. Alors ceux qui passent 2 ou 3 heures avec moi devraient dire « Ah ouais, ah ouais, d'accord, il est gentil avec moi. Ouais, ouais. Avec ma femme, je peux passer 14 heures à discuter avec elle. » On se lève le matin, on commence à discuter, et d'un seul coup, on regarde et on fait « Ah ouais, on a sauté le repas du midi, on doit prendre celui du soir. » Arrêtez d'idéaliser. Arrêtez. Je sais ce que c'est que la vie de couple. Je sais combien ça peut être compliqué, voire même parfois violent. Parce qu'il y a tellement de souffrances, de choses qui ne sont pas prises en compte pendant des semaines, des mois, et pour certains des années. Alors, dès l'instant qu'on commence à se dire « on va parler », faut revenir sur des années qu'on n'a rien dit. Ah mais moi je croyais que ça tu l'avais avalé. Ah non. Mais ça a un an. Et alors? Ouais ben à ce moment-là, moi je vais t'expliquer, il y a 8 mois. Et ça y est. C'est bizarre comment on arrive à conserver un historique de frustration qu'on est prêt à resservir à l'autre dans une discussion. Alors essayez pas de battre notre record, hein. On l'a fait une fois à 14h. Hein. J'espère ne jamais le refaire. Ma femme aussi, elle dit j'espère. Elle a mis une semaine à s'en remettre. Hein. J'essaye de casser tous les idéaux que vous pouvez vous faire. Acceptez votre réalité, mais pas sans réponse. Heureusement que les discussions qu'on a nous amènent à nous repositionner face à Dieu, à essayer de chercher des solutions dans le Seigneur, à essayer de modifier dans nos vies ce qui doit l'être. Et puis, ce qu'on n'arrive pas, bah, supportons-nous par amour. C'est dur des fois d'y arriver. Ça va peut-être prendre du temps. On a la volonté, mais parfois ça ne suffit pas. Alors si j'y arrive pas, ma chérie, sois patiente. Et si toi, tu n'arrives pas, eh ben, je vais être patient aussi. Mais je sais qu'avec Dieu, on va y arriver. Le mariage est tout sauf sentimental. Comment ? Il est splendide mais difficile. Il fait la joie de vivre et de force, mais aussi de sueur et de larmes, de défaites humiliantes et de victoires épuisantes. Après quelques semaines d'existence, aucun mariage ne ressemble à un conte de fées. Et pourtant, il n'existe aucune relation entre deux êtres humains si belle et importante si elle respecte les ordonnances divines, si elle reflète l'amour puissant et éternel du Dieu Trine. La Bible, et en particulier l'apôtre Paul, nous dit que le mariage est un grand mystère. Un grand mystère. Un secret, une vérité insoupçonnée, merveilleuse et profonde, qu'on ne peut comprendre qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le concept du mariage est galvaudé, méprisé aujourd'hui. Voilà pourquoi peu se marient, beaucoup divorcent. À la Ciotat, il y a quelques années, ils ont fait l'analyse, les stats sur la ville. 10 mariages se terminent par 7 divorces. 70% de divorces. Pétard, à Paris, c'est pire. Oui, 9 sur 10. C'est une catastrophe. On veut mettre en place une vie de couple sans celui qui a tout prévu pour qu'elle marche. Dieu. Sans lui, c'est impossible que ça marche. Peu se marie, beaucoup divorce. Vous allez me dire, ouais, mes parents, ils n'étaient pas chrétiens et ils sont restés jusqu'à leur mort. Oui, mais dans quel état ? C'était juste qu'à une certaine époque, ça ne se faisait pas de divorcer. Les femmes, elles se mangeaient de la soupe aux doigts tous les jours, mais elles ne divorçaient pas. Quand je repense à mes grands-mères, je me dis, mais waouh, ça a été dur pour elles. Moi, quand mon grand-père, côté maternel, est rentré de la guerre, qu'il était alcoolique, croyez-moi, ça n'allait pas facile dans la maison tous les jours. La femme, elle vivait au milieu de la peur, non-stop. Elle avait peur pour elle, pour ses enfants. Aujourd'hui, c'est intenable et insoutenable, bien évidemment. Alors évidemment que ça divorce rapidement. Évidemment que les couples ne tiennent plus. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de lien. Le mariage est devenu un moyen de consommation. On consomme l'autre. Soit il correspond à ce que j'attends, s'il ne correspond pas, next, je te zappe, je change. Vous faites la reprise ? Faut garder le ticket de caisse, ouais. Mais tu liras, à l'arrière, il y a une date limite de consommation, hein, faut faire gaffe. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 32. Femmes, oh là là, attendez, là, accrochez-vous les sœurs à vos chaises. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oh ! Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Oh ! Marie, aimez vos femmes. Attendez les maris, c'est à vous maintenant. Ah, voilà, ça y est. Oui, Dieu équilibre tout. Le pire, c'est quand nous, on n'est pas équilibrés. Marie, aimez vos femmes, pas n'importe comment. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Livre de la Genèse. Ce mystère est grand, dit Paul. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voudriez-vous connaître ce grand mystère ? Parce que Paul dit, ce mystère est grand. Est-ce que vous voulez connaître le grand mystère du mariage ? La solution pour que le mariage marche, fonctionne. Le mystère de l'Évangile est dévoilé à travers le mariage et le mystère du mariage est dévoilé à travers l'Évangile. Et ce secret, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En quoi l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est un moyen d'avoir une vie de couple épanouie ? Ce secret nous est révélé par le Christ qui nous a donné un modèle à suivre, par le Christ qui nous a donné sa vie par amour. Voilà la raison pour laquelle le mariage est si douloureux et pourtant si merveilleux. Tu veux aimer ? Sois prêt à souffrir. L'amour sans souffrance n'existe pas. L'amour suppose toujours la souffrance. Et plus tu vas aimer, et plus tu vas souffrir. Jésus a mis le comble à son amour pour nous. Qu'a-t-il fait ? Il a beaucoup souffert. Et quand on comprend que le mariage est une relation d'amour à l'image de ce que Christ est pour l'Église et l'Église pour Christ, d'un seul coup, l'image du mariage n'est plus la même. Ce qu'on va y rechercher n'est plus tout à fait pareil. Et ce qu'on pense y trouver n'a plus rien à voir avec Walt Disney et ses beaux scénarios. Voilà la raison pour laquelle le mariage est si douloureux et pourtant si merveilleux. C'est parce qu'il reflète l'Évangile qui est en même temps douloureux et merveilleux. Le message de l'Évangile est que nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous n'osons l'avouer. Et que nous sommes également bien plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous oserions l'espérer. Tu veux savoir comment Jésus t'aime ? Accepte de te voir tel que tu es. Tu comprendras qu'il faut qu'il ait beaucoup d'amour. Beaucoup de patience. Beaucoup de persévérance. Qu'il soit rempli de compassion avec toi. Arrête de regarder aux autres. Mais regarde, toi à toi. Ne fais plus le déni de ta propre vie. Regarde-toi tel que tu es et dis-toi, oui, il m'aime, malgré tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il me laisse tranquille et qu'il ne va pas essayer de changer en moi ce qui doit l'être. Il s'agit du seul genre de relation susceptible de nous transformer réellement parce que Christ nous aime inconditionnellement et véritablement au point de nous avoir donné sa vie. De nous avoir donné sa vie. Aujourd'hui, dans les couples, on ne donne plus sa vie à l'autre. On reprend sa vie. Tu reprends ta vie et je reprends la mienne. On n'arrive jamais à donner sa vie, ou très rarement. Les seuls couples qui vont jusqu'au bout, c'est ceux qui sont dans le don de soi à l'autre. Ah d'accord, écoute, quand je vais aller signer à la mairie, il faut que je réfléchisse bien avant. Bah oui. Oui, oui. Alors attendez pas d'être marié. Enfin, moi, j'attends pas que vous ayez le projet de vous marier, les jeunes. Vous êtes déjà en formation à la vie de couple ce matin. Tous ceux qui sont passés à la formation à la vie de couple, hein, Rodolphe, Angélique et tous les autres, là. Vous avez entendu là, tout ce que je dis là, vous l'aviez déjà entendu avec moi et Sophie dans la formation à la vie de couple. Et tous ceux qui ont fait la formation à la vie de couple, Karl, tu l'as fait aussi avec Mag, Mathieu, Noémie. C'est appliqué, toi. Tout est... Vas-y, lève-toi, Noémie. Vas-y. Priez pour eux. L'amour sans vérité est sentimental. La vérité dépourvue d'amour est dureté. Mais l'amour salvateur de Dieu en Christ se démarque à la fois par une honnêteté absolue concernant notre identité et par un engagement tout aussi absolu et inconditionnel envers nous. Avec l'Évangile, nous recevons à la fois la puissance et le modèle nécessaire à l'aventure du mariage. Le but du mariage n'est pas de renoncer à ses propres intérêts pour le bien de la famille comme l'ont fait des générations de couples. Ni au contraire de défendre ses propres intérêts pour son bien personnel comme le font nos contemporains de plus en plus égocentriques. C'est ni l'un ni l'autre le mariage. La conception chrétienne du mariage offre plutôt l'épanouissement mutuel grâce au sacrifice mutuel. Je donne ma vie en sacrifice à un autre qui donne sa vie en sacrifice pour moi. L'amour ne doit pas nous rendre aveugles, mais au contraire nous rendre la vue. Le mariage doit être le terrain sur lequel l'amour et la transparence grandissent de façon absolue. Dans le mariage, chacun doit donner et recevoir de l'autre sans compter. Dans le mariage, nous devons être à la fois transparents quant à la vérité et amoureux au point de mourir à nous-mêmes pour l'autre. Il n'existe donc aucune relation entre deux êtres humains aussi belle, aussi intime et importante. Aucune. Mis à part la relation que tu peux avoir avec Dieu. Dans le mariage, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais à 1. Tout comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont 1. Le mari et la femme doivent être 1. Et comment pourraient-ils faire 1 s'ils ne meurent pas à eux-mêmes ? Tu prends 2 brebis. Comment tu peux en faire une seule ? Tu tues les 2, tu les fais cuire. Tu les passes au hachoir, tu fais un pâté de brebis, c'est bon, elles font plus qu'un. C'est vrai. Comment avec une pomme de terre et une carotte, tu peux ne faire plus qu'un? Ça, c'est des années à la mission de Zigane pour acquérir cette théologie, vous imaginez. Comment avec une carotte et une pomme de terre, c'est de la théologie pratique qu'on appelle ça, tu peux n'en faire plus qu'un. Tu fais cuire la carotte et la pomme de terre, tu les écrases et tu fais une purée pomme de terre-carotte. Plus personne peut les séparer. C'est fini. Ils ne font plus qu'un. Ils ont été épluchés, cuits, broyés. Ils ne font plus qu'un. Indissociables. Vous voulez faire qu'un avec votre mari et votre femme ? Acceptez le dépouillement spirituel. Acceptez le creuset spirituel. Lorsque les difficultés arrivent, sors pas de la casserole. Reste avec elle. Reste avec lui. Supporte l'adversité. Dieu est en train de n'en faire plus qu'un. Il n'y a pas mieux que la souffrance et la douleur pour nous unir. Et Dieu le sait. Dieu le sait. C'est triste, mais c'est comme ça. Dwight Small a écrit « Lorsqu'un homme et une femme s'unissent dans le mariage, la nature humaine expérimente la restauration du sentiment de complétude. » Adam tout seul, ça n'allait pas. Il lui manquait quelque chose. Et quand on s'unit dans le mariage, on trouve, comment on l'appelle ? J'ai trouvé enfin ma moitié. Un sentiment de complétude. Ce qui fait la gloire de l'homme, c'est qu'il reconnaisse que la femme a été créée pour lui. Ce qui fait la gloire de la femme, c'est qu'elle reconnaisse que l'homme est incomplet sans elle. Ce qui fait l'humilité de la femme, c'est qu'elle reconnaisse qu'elle a été créée pour l'homme. Ce qui fait l'humilité de l'homme, c'est qu'il reconnaisse qu'il est incomplet sans la femme. Et tous deux partagent la même dignité, le même honneur, la même valeur. Oui, chacun partage l'humilité face à l'autre. Et chacun est forcément dépendant de l'autre. Par la grâce de Dieu et l'aide journalière du Saint-Esprit, l'homme et la femme peuvent pleinement vivre dans un sentiment de complétude au sein de leur mariage, en partageant la même gloire et la même humilité, s'ils acceptent de vivre selon le modèle que Christ leur a donné, et plus que de tomber amoureux et d'attendre de l'autre qu'il nous comble. Le mariage est un engagement d'amour inconditionnel et sacrificiel pour toute la vie. Il n'est pas la consommation de l'autre, mais le don de soi à l'autre. C'est une relation unique et précieuse, une alliance d'amour entre 3 personnes, l'homme, la femme et Dieu. Et pour imaginer, ou pour illustrer cette alliance, imaginez, eh bien, un toit. Ah, ça fait un toit. Il y a l'homme, et là, il y a la femme. Imaginez un toit dont la structure est triangulaire. Ces deux côtés se rencontrent à leur sommet. Et se soutiennent l'un l'autre. Mais dessous, la fondation soutient les deux côtés. C'est pas le tout de se soutenir l'un l'autre. Si Dieu n'est pas le fondement de la vie de couple, les choses ne tiendront jamais. Chacun doit être appuyé fortement sur Dieu. L'alliance avec et devant Dieu donne la force aux partenaires de conclure une alliance entre eux. Et c'est pour cela que le mariage est l'alliance humaine la plus profonde et la plus belle qui soit. Oubliez l'un des trois partenaires et le toit s'écroule. Se marier, c'est faire équipe à deux avec Dieu dans le voyage de la vie jusqu'à son trône. C'est s'engager à être le vecteur de l'œuvre divine dans la vie de son ou de sa bien-aimée jusqu'au jour où ensemble on se tiendra devant Dieu, chacun voyant l'autre dans sa beauté et sa gloire parfaite. Je serai parfait dans le ciel, chérie. D'une beauté éclatante. Plus de défauts, plus rien. C'est pour ça que sur ma tombe, j'aimerais qu'on mette deux mots. Ouf et enfin. Au moins, ceux qui passeront dans le cimetière auront un petit sourire. Ouf et enfin. Mais quelle grâce de dire que mon épouse aussi dans le ciel. Waouh, incorruptible. Waouh, éclatante de beauté. Vêtue d'un fin lin blanc. Waouh. Moi dans le ciel, je ne vais pas juste voir Jésus. Celle avec qui toute ma vie j'ai combattu. On continuera à faire un dans le ciel, avec le Seigneur, dans une dimension bien au-delà de ce que l'on vit actuellement, où des fois on a du mal à réunir les trois ensemble. Quand on arrive à réunir le mari, sa femme et Dieu, quelle grâce! Quelle grâce! Je conclus. Dieu souhaite donner à chacun de ses enfants, sauf à ceux qui ont une vocation de célibat. Mathias venait me voir, on fait des entretiens et tout, il me dit « peut-être j'ai une vocation de célibat ». J'ai dit « je crois pas, sincèrement non ». Les parents sont là, je ne pensais pas non plus. Vous le connaissez bien, c'est votre fils. Non. Hein ? Célibataire, non, on ne fait pas le choix. Ça t'est imposé par Dieu. Ou alors, c'est que ce n'est pas un bon choix. Et je ne parle pas à ceux qui ont 50 ans. Je parle aux jeunes. Je t'y réexpliquerai après. Sauf à ceux qui ont une vocation de célibat. Un mariage stable et uni reflétant sa gloire et son amour. Mais nous devons y travailler ensemble et sans relâche afin de témoigner à tous de l'amour de Dieu puissant et éternel. Et pour que cela soit possible, notre communion avec Dieu doit se traduire par une plus grande communion et un amour plus sain, mature et édifiant avec notre conjoint. Avec Dieu, nous ferons des exploits si nous nous donnons du temps pour accomplir sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et si nous donnons les priorités à chacun et à chaque chose, soyons toujours conscients que Dieu doit avoir la première place dans nos vies et que de lui découle tout notre bonheur et les priorités sont claires. C'est quoi les priorités ? Dieu, notre conjoint et nos enfants. Notre travail ou service dans l'Église. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Modifie ces choses-là et ça ne marche plus dans ta vie. Le problème, c'est que certaines épouses, elles mettent les enfants tout en haut. Ben, ça ne marche pas non plus. Ou que les hommes, eux, ils mettent le travail tout en haut. Et ça ne marche pas non plus. Il faut respecter l'ordre voulu par Dieu. Nos succès, qu'ils soient familiaux ou professionnels, dépendent de notre relation à Dieu et de notre obéissance à ses ordonnances. Psaume 127:1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Notre mariage, tout comme notre vie, doit servir de modèle pour les jeunes gens et ceux qui arrivent à l'église. Ceux qui sont déjà mariés, là. Les jeunes, bouchez-vous les oreilles. Les jeunes vous regardent. Ils vous regardent. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Mon stagiaire, il me dit, je ne sais pas si je vais me marier. Regardez. Tite, chapitre 2, verset 7. Offrez aux jeunes gens, offre aux jeunes gens, par ton comportement, un modèle qu'ils puissent imiter en tout point. Est-ce que tu peux dire ce matin, ma vie de couple avec mon épouse ou mon mari est un modèle que les jeunes peuvent imiter en tout point? Bon, personne ne lève la main. Il y a du taf. Quelle que soit votre famille d'origine, quels que soient ces dysfonctionnements dont vous avez peut-être hérité même de votre éducation, quelle que soit votre situation actuelle, ne soyez ni défaitiste, ni fataliste. Dieu vous aime et veut le meilleur pour chacun de vous, individuellement et collectivement. Il veut que chaque foyer soit construit sur son solide fondement avec des matériaux inaltérables et éternels. Il est prêt à vous bénir et à rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est de Christ dont le prophète a parlé, et on terminera là-dessus dans Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Table. Il travaille à la restauration dont ceux dont le couple est devenu pratiquement une ruine. Il peut relever les ruines qui sont dans ta vie parce que tu as tellement négligé les choses. J'ai vu une émission récemment à la télé où des gens se rendent, c'est dans les Pyrénées, il y a un village, les gens ont tous déménagé, ils sont partis à la ville et ce village dans les montagnes est une ruine. Ils ont laissé les maisons comme ça, ça fait plusieurs années, ils sont toujours vivants les gens, et tous les ans ils reviennent dans ce village, ils font un repas ensemble pour se retrouver. Mais vous voyez que les arbres ont poussé dans les maisons, les toits sont tombés, ce n'est que ruine. Pourtant ils avaient tout laissé dans l'état, ils sont partis, ils vivaient dedans. Et la personne dit, on voit que la nature a repris ses droits. La question que je vous pose ce matin, croyez pas que vous pouvez maintenir votre maison en bon état si la nature reprend ses droits et que vous abandonnez de l'entretenir. Votre couple, si vous ne l'entretenez pas, oui, votre nature charnelle va reprendre ses droits. Et votre mariage ne sera plus un mariage de sacrifice l'un pour l'autre, mais chacun va réclamer ses propres droits. Et qu'est-ce qui va en ressortir? Des ruines. Des ruines. Il est celui qui veut colmater les brèches, qui veut restaurer les vies, les couples. Arrête de négliger le cadeau que Dieu t'a fait en t'associant à celui ou celle avec qui tu partages ta vie dans l'union du mariage. J'espère donner envie aux jeunes au travers de ce message, pas les effrayer, mais de leur dire, le mariage, c'est le prolongement de ma spiritualité. Écoutez bien, le mariage doit être le prolongement de ma spiritualité. Je veux que mon mariage soit un témoignage de ma foi, que c'est possible que deux personnes tellement différentes à la base, issus de deux milieux différents, de deux familles différentes, parfois même de deux pays différents, hein, Olivier, Mélène et les autres, puissent arriver à ne faire plus qu'un et expliquer comment c'est un grand mystère si on oublie d'y voir Christ. Votre mariage doit être mystérieux. J'ai plein d'amis à moi, j'avais plus de contact avec eux, puis dès que vous vous mettez sur Facebook, vous retrouvez des amis bizarrement. Et au carnage, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vis? Alors, le premier choc que je leur fais, c'est, je suis pasteur. Hein? Quoi? T'es quoi? Bah, pasteur. Non, c'est pas possible. Bah, si. Ah ouais? Et toi? Ah, moi, je travaille à la régie Renault, moi, je travaille à Rhône-Poulenc, moi, je travaille... Ok. Et alors, t'es marié, t'as des enfants? Ah non, je suis divorcé. Puis, je vis avec une copine. Puis, les enfants, ils font une semaine sur deux. Et toi? Ben moi, je suis avec Sophie. Non. Celle avec qui t'étais quand t'avais 16 ans? Sophie, que t'allais à l'école la voir à la sortie de son bahut, que tu mangeais des croque-monsieur avec elle le midi quand vous aviez la possibilité, là, à croque-chaud, à Elbeuf. Ouais, ouais.
Non.
Ouais, je suis encore avec elle. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Et ça va? Ah ouais? Les gens, ils sont scotchés quand ils voient qu'un couple, après plus de 30 ans, ils sont toujours ensemble. Mais comment vous faites? Ah d'accord, tu veux que je t'explique comment on fait? Bah assis-toi, je vais t'expliquer. Puis donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer une Bible. Parce que ça, c'est la notice, hein. Il va falloir la lire, hein. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe et on termine là-dessus. Quand on ne lit pas la notice. Ça va aller, hein. Un jour, j'ai commandé une machine à laver à mon entreprise. Je ne l'ai pas fait livrer par une société qui vend de l'électroménager. Mon entreprise, on fabriquait des moteurs de machines à laver. Et donc, je l'ai acheté dans le comité d'entreprise. Alors, quand on m'a dit elle est arrivée, je l'ai mise dans ma voiture et puis je l'ai amenée chez moi. C'est la première machine à laver que j'avais. On venait de se marier avec Sophie. Alors, j'ai regardé, j'ai vu deux tuyaux. Ok. Il y a une alimentation, je l'ai mis sur le tuyau d'eau. Puis il y a une vidange, je l'ai mis sur le truc de la vidange. Puis j'ai vu qu'il y avait une prise, j'ai mis la prise. Je fais, c'est bon Sophie, tu peux mettre le linge dedans. On allume, ça s'allume. Elle met le linge, elle met la lessive, tout. Elle appuie sur le bouton. Ah, ça marche. Ah si, ça tourne. Mais à un moment donné, la machine, elle se met à faire... J'éteins, je cours dans la cuisine, j'éteins, je fais, qu'est-ce qu'elle a cette machine? Je regarde comment elle bouge. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis assis dessus et j'ai appuyé sur le bouton. J'ai arrêté tout de suite. Je dis, tout l'immeuble va être au courant qu'on a acheté une machine à laver. Sophie, monte avec moi. J'y ai fait une place sur... Vous imaginez qu'à chaque tournée de linge, il aurait fallu qu'on s'assoie tous les deux sur la machine. On cherche des solutions. On est un couple. On s'est assis tous les deux. On s'est fait secouer tous les deux. Et à un moment donné, j'ai dit, il y a un truc. Alors là, j'ai pris la notice. Et il fallait débrider le tambour. Moi, 21 ans, débrider le tambour... Moi, ma mère, mon père m'ont jamais appris qu'une machine à laver, le tambour est bridé, quoi. C'est comme la mère à Sophie, lui avait jamais appris que les pâtes, ça se mettait dans l'eau chaude et pas au moment à l'eau froide dès le départ. Sinon, au lieu d'avoir des coquillettes, t'as une polenta, tu vois. C'est formidable, la vie de couple. C'est formidable, la vie de couple. Maintenant, je sais débrider une machine à laver. Mon épouse fait des coquillettes à merveille. En tout, sachons rendre gloire à Dieu. Parce que c'est bien grâce à lui qu'on est toujours ensemble. Croyez-moi, allez la questionner. Si Dieu n'avait pas été dans notre vie, elle m'a connu sans Dieu, je l'ai connu sans Dieu. On aurait grossi les rangs de tous ceux qui ne sont pas restés ensemble. C'est parce que Dieu est dans notre vie que malgré toutes les imperfections que nous avons encore, on continue d'avancer avec lui.